Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RMC. Il est 4h26 et nous sommes en direct, mais oui, fidèle au poste, comme tous les matins. Bah oui, si c'est la première fois que vous vous branchez sur RMC, il faut vous le rappeler. Nous sommes là tous les matins, évidemment, dès 4h26 pour vous réveiller, pour vous accompagner, pour démarrer la journée tous ensemble. Même si on sait que pour certains, la journée a démarré depuis plusieurs heures. On est évidemment avec les courageux de la nuit, ceux qui sont déjà dehors, ceux qui sont au boulot. Déjà dehors, malgré ce froid, n'est-ce pas Géraldine Demory ? Bonjour Géraldine.
Salut Charles, bonjour à tous. Bah oui, ça change pas, il fait froid.
Si vous faites partie des rares Français qui ne connaissent pas encore Géraldine Demory, bah c'est la voix du ciel, j'ai envie de dire, tous les matins, la voix de la météo sur RMC tous les jours. Et puis évidemment, pour vous accompagner, pour vous réveiller tous les matins, Anaïs Castagna est là. Bonjour Anaïs.
Bonjour Charles et bonjour à tous.
Tout va bien aussi ?
Très bien.
Pas trop froid ?
Si.
Ok. Mais c'est à cause de Géraldine, de toute façon. Hein. Vous pouvez blâmer Géraldine, vous n'hésitez pas. Le 32-16 est ouvert. Et oui, le 32-16, c'est le numéro à composer pour être en direct sur RMC. Vous le savez, tous les matins, vous avez la priorité pour partager avec nous, venir témoigner autour de toute l'actualité. Alors, l'actualité en ce moment, j'ai envie de dire même l'inquiétude pour les Français en ce moment, c'est la réforme des retraites. On en parle beaucoup, évidemment. Et il y a un aspect de cette réforme qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est ce qu'on appelle l'emploi des seniors, ce qu'on appelle les seniors sur le marché du travail, parce que ça peut être un peu vexant comme terme, senior, ce sont les plus de 55 ans. Et donc avec cette réforme des retraites qui prévoit de repousser l'âge légal de départ à 64 ans, bah les seniors, ce sont donc les 55-64 ans. Bah oui, ça fait toute une classe d'âge, une dizaine d'années, de 55 à 64 ans, on est considéré comme senior sur le marché de l'emploi. Et on va en parler très concrètement ce matin avec vous au 32-16 avec cette question. Faut-il sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors ?
Puisque le gouvernement a présenté hier en Conseil des ministres sa réforme des retraites, à la sortie du Conseil des ministres, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a confirmé qu'il y aurait dans ce projet de loi un index sur l'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés. L'idée, ce serait d'obliger ces entreprises à dire combien de seniors elles emploient. Mais les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors ne seraient pas sanctionnées. Il y aurait juste une obligation de publier ces données. Le taux d'emploi des seniors en France est seulement de 56% en dessous de la moyenne européenne.
Ah ben justement, on vous attend au 32-16 sur le sujet. Alors oui, il y a cette question des sanctions. Est-ce qu'il faut aller plus loin et mettre des amendes, soyons clairs, aux entreprises qui n'emploient pas assez de seniors? Là, pour l'instant, tout ce que prévoit le gouvernement, c'est d'essayer d'obliger les entreprises à dire combien elles en emploient, mais certaines pourraient être tentées de se dire on préfère payer des amendes plutôt qu'embaucher les seniors. C'est une vraie question, hein, l'emploi des plus de 55 ans. Trouver un boulot, même quand on a plus de 50 ans tout court, là-dessus, on a besoin de vous ce matin. Vos témoignages au 32-16, vous avez plus de 50 ans, racontez-nous comment on fait pour retrouver du boulot à cet âge-là, comment on fait pour garder son boulot tout simplement. Est-ce que vous avez le sentiment que dans votre boîte, on vous pousse un peu vers la sortie, passé 50, 55 ans, comment retrouver de l'emploi après 60 ans, parce que ça va être la question avec cette réforme des retraites, il faudra en théorie bosser jusqu'à 64 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'en France, les entreprises ont cette culture de l'embauche et surtout du fait de conserver les seniors jusqu'au bout, jusqu'au moment de la retraite? Venez nous le raconter ce matin au 32-16, c'est avec vos témoignages qu'on va mieux avancer. Puis tiens, vous êtes patron, est-ce que vous conservez vos salariés les plus âgés? Vous pouvez aussi honnêtement témoigner aujourd'hui, vous n'hésitez pas, l'emploi des seniors, c'est un vrai sujet dans cette réforme des retraites. Est-ce que globalement, la France a un problème avec les seniors au travail? Venez nous le dire ce matin au 32-16 ou sur l'appli RMC. Il y a Direct Studio, vous allez sur l'appli RMC et avec Direct Studio, vous pouvez témoigner en direct. Vous nous envoyez vos petits messages, on les lit en direct tous les matins sur RMC.
Et puis si on va continuer de parler travail dans mon choix, ce matin à 5h10, je vais vous parler de notre rapport au travail qui a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Le travail occupe une place beaucoup moins importante dans nos vies respectives. On est très nombreux à estimer que c'est pas la priorité, qu'on a besoin de temps pour profiter. Je vais tout vous dire à 5h10. On va aussi sourire avec Arnaud Demange, retrouver Anthony Morel pour C'est déjà demain, Manu Le Chip pour l'économie et Thibaut Texer évidemment pour la Story Sport. 6h20 sur RMC et RMC Story.
Et j'en profite pour saluer tous les leftos, tous ceux qui nous saluent déjà sur Direct Studio. Voilà, je viens de donner le chemin à l'appli RMC Direct Studio et hop, je vois tous vos messages qui s'affichent en direct. On va saluer Émilie qui est déjà réveillée, je vois Rachid aussi, Ibrahim qui salue la team, l'équipe de Bon Matin, on est évidemment avec
salut
vous. Et tiens, Bruno qui me donne une bonne info sur Direct Studio, je vous le lis tel quel. Urgent, message pour Charles, j'ai trouvé une boulangerie à Paris qui fait des wraps raclette. Voilà, merci Bruno pour le bon plan. Voilà, c'est aussi ça le matin sur Direct Studio, vous partagez vos bons plans.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h42, bon réveil à tous sur RMC. Alors, faut-il sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors ?
C'est la question du jour sur RMC.
62 ans, 64 ans, 67 ans, c'est les chiffres du moment. À quel âge pourra-t-on partir à la retraite ? Mais en décalant l'âge de départ, le gouvernement soulève un autre enjeu du marché du travail en France, celui de l'emploi des seniors. Car faire travailler les Français plus longtemps implique que les entreprises embauchent et conservent leurs salariés âgés de plus de 55 ans.
Oui, ce qui est loin d'être évident, le taux d'emploi des seniors est seulement de 56% en dessous de la moyenne européenne à 60,5%.
Et c'est pourquoi dans son projet de réforme, le gouvernement prévoit un outil pour favoriser l'emploi des seniors.
Un index senior qui doit être mis en place dès cette année dans les entreprises de plus de 1000 salariés et à partir de 2024 pour les entreprises de plus de 300 salariés. Il va obliger les directions de ces entreprises à publier le nombre de seniors qu'elles emploient, faute de quoi des sanctions pourraient être appliquées. C'est ce qu'a expliqué hier Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
Une entreprise qui ne respectera pas cette obligation de publicité et donc de transparence sur les résultats qui sont les siens en matière d'index senior fera l'objet d'une sanction financière, comme c'est le cas pour l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le problème, c'est que c'est juste une obligation de publication. Les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors ne seront pas sanctionnées.
Eh bien alors, posons clairement la question. Faut-il mettre en place des sanctions pour les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors ? Bon, quand on pose la question, la réponse est claire du côté du MEDEF. La réponse est non, nous dit la porte-parole du MEDEF, Dominique Carlac.
Une solution globale avec le bâton ne fonctionnera pas. C'est pas parce qu'on mettra des amendes aux entreprises que pour autant, du jour au lendemain, elles pourront changer une génération de compétences ou une pyramide des âges des compétences. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut former et puis il faut un plan qui dit, bon ben voilà, moi sur telle et telle fonction, j'ai besoin et j'ai envie de recruter des seniors. Une solution par branche où on se donne des objectifs et on peut contrôler l'avancée des objectifs, ça peut fonctionner.
À l'inverse.
Mais pour l'économiste Henri Sterdignac, sans contrainte, les entreprises n'embaucheront pas plus de seniors qu'auparavant.
Il serait évidemment souhaitable de mettre sur pied un système de sanctions pour inciter les entreprises effectivement à agir correctement. Nommer les entreprises qui jouent pas le jeu, l'effet est moins dissuasif que d'avoir une amende, même si l'amende est de faible montant, et ben il faut expliquer ensuite aux actionnaires pourquoi on a eu cette amende. Donc c'est difficile à mettre en œuvre, mais je pense que c'est quand même indispensable si on veut effectivement réussir cet objectif.
Bah oui, il y a un objectif à réussir, comme le rappelle Henri Sterdignac. Est-ce que l'incitation suffit ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à des sanctions ? On va vous poser la question ce matin, mais surtout c'est avec vos témoignages qu'on va mieux comprendre la réalité de l'emploi des seniors aujourd'hui en France. On va poser la question à Bruno qui nous appelle de l'Essonne, c'est ça ? Bonjour Bruno.
Bonjour Bruno.
Ouais, on va se répartir les rôles. Bruno, c'est vous. Charles et Anaïs, c'est nous. Voilà.
Enchanté, Bruno.
Les rôles sont bien distribués. Alors, Bruno, je me permets, comme on parle d'emploi des seniors, de vous poser la question. Ouais. Quel âge avez-vous, Bruno ?
Alors, moi, j'ai 55 ans.
Ah, bah ça y est, vous êtes dedans. Alors, dans les statistiques, vous êtes dans les seniors.
Charles.
Ah, bah si, c'est pas moi qui.
Non, j'ai aucun souci là-dessus. J'ai aucun problème avec mon âge, mais vraiment aucun problème.
Ah non, mais j'y suis pour rien.
Parce qu'en France.
Vous êtes senior pour les statistiques.
Ouais, je suis un senior, mais en plus de ce qui est risible, et c'est qu'en France, dans certains métiers, plus on est âgé, plus on a de l'expérience. Même si on vient de commencer dans un autre boulot. Là, je suis dans l'immobilier, donc, et je suis formateur depuis quelques temps.
D'accord.
Et je me suis mis à mon compte, tout simplement parce que je suis inemployable. Et pourquoi ? Non pas parce que... Alors, certains ne veulent pas embaucher des seniors, ça c'est vrai. Des gens de plus de 50 ans, ils ne veulent pas. Il y en a qui me l'ont dit implicitement qu'ils ne voulaient pas.
Mais comment on vous le fait comprendre ? Parce que ce n'est pas votre métier à la base, l'immobilier ? Enfin, si vous avez cherché un boulot...
Ça fait 30 ans que je suis immobilier.
Ok, et donc vous avez cherché avec des CV à partir de 50 ans du boulot dans l'immobilier, un domaine que vous connaissez bien. Et quand vous vous pointez en entretien d'embauche, Bruno, comment on vous fait comprendre implicitement que vous êtes trop vieux ?
Que la boîte, elle se rajeunit, que la moyenne d'âge, elle est de 30 ans, que c'est une start-up pour sous... Là, j'en ai une, c'était il y a 6-7 mois, où c'était une start-up, et elle m'a dit, oui, mais la moyenne d'âge ici, c'est 25-30 ans, on bosse les week-ends, on bosse comme des fous, à croire que nous, ben, on est mort. C'est-à-dire que nous, grosso modo, on était sur l'autoroute, et puis là, on est sur la bande d'arrêt d'urgence, et puis on peut plus rouler, quoi. Voilà, pour beaucoup, c'est ça. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est d'entendre l'État qui dit on va donner des sanctions. Mais les sanctions, ça servira à rien.
Ah non, ils en sont même pas aux sanctions là. Ils disent on va obliger les entreprises à dire combien elles emploient de seniors. Oui. Il y aura même, mais même si elles en emploient pas, il y aura pas de sanctions derrière.
Oui. Et le truc, c'est que, et en plus ça, moi par contre, j'ai eu 2-3 boîtes qui m'ont dit, vous êtes trop cher, parce que les seniors en coûtent cher. Parce que ce que les entreprises veulent, c'est l'expérience, c'est les compétences, mais sans le salaire qui va avec. Le gros souci, il est là à l'heure actuelle en France, c'est que on veut, mais on donne rien. Donc c'est vrai qu'on coûte cher parce que on a l'expérience, parce qu'on sait plus ou moins donner les conseils. Enfin, le savoir-faire, ça se paye.
De bien sûr,
c'est pas gratuit. C'est quoi.
Expérience et compétence, ça a un prix.
Charles, je souhaite, Anaïs, pour vous, je souhaite que vous soyez à la radio pendant encore de très, 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 très longues années, mais vous allez arriver à un certain âge, vous allez vous dire, ben, j'ai envie de voir autre chose. Donc, le salaire, ben, il suivra pas, ça sera peut-être un peu plus compliqué.
Comment vous avez fait, vous, Bruno, nous dites, bah, j'ai multiplié les entretiens d'embauche, mais à chaque fois, on me faisait comprendre que j'étais trop vieux. Comment vous avez fait, vous bossez aujourd'hui? Vous êtes dans quel...
Je suis à mon compte. Soit je suis trop vieux, soit je suis trop cher. Mais je suis à mon compte. Et le truc, c'est que, bah, quand on est à son compte, il y a des mois où, bah, on se paye pas, quoi. Donc, j'ai monté une société. D'accord, c'est avec la carte d'agent immobilier, donc je monte ma société. Sauf qu'il y a des mois où c'est plus difficile que d'autres parce qu'on se paye pas.
Oui, et puis donc, pareil.
Et tout le monde ne peut pas le faire en plus.
Et tout le monde, tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il faut pouvoir. C'est-à-dire que la volonté, beaucoup long, mais la possibilité, c'est compliqué.
Ouais, hein, il faut que les banques suivent et tout. Hein, quand on a un certain âge, il faut.
Voilà. Donc, moi, ça va. À ce niveau-là, j'ai su bosser pas mal pour pouvoir un peu de trésorerie. Mais quand on fait un chiffre d'affaires comme il est le mien parce que je suis tout seul, eh ben, il y a des fois où, des mois, on se paye pas. Et quand on se paye pas, eh ben, on cotise pas. Et quand on cotise pas, ben, c'est un mois de plus, en moins pour la retraite qui va venir.
Ouais, et là,
donc, là par exemple, ça fait 4 mois que je me paye pas. Par contre, l'ironie, c'est que, les impôts me loupent pas. C'est-à-dire que je paye quand même la contribution foncière des entreprises, c'est une taxe sur une entreprise. Je paye quand même la TVA. Donc je suis quand même
là, Bruno, jour, vous avez ouais, vous avez 55 ans, vous comptez fonctionner comme ça encore combien de temps? Vous comptez
J'en sais absolument rien. Alors heureusement, j'ai pas d'enfant, donc voilà. C'est la vie. Je suis célibataire, c'est la vie. Bon, après, je suis pas quasimodo non plus, mais je sais pas. Franchement, je sais pas du tout comment je vais.
Est-ce qu'au passage, on peut vous faire un peu de pub, Bruno, là, s'il y en a qui nous écoutent dans l'Essonne, je sais pas si.
Je suis formateur en IMO, donc. La pub, voilà. Mais okay. Je pense que
la solution. Non, mais c'est pour vous filer un coup de pouce. Alors, justement, dites-nous la solution, parce que là, on parle des sanctions. Est-ce que ça suffit la menace financière pour dire en disant aux entreprises, s'il y a pas, je sais pas, 5, 10, 15% de seniors dans vos effectifs, là, on parle des grosses boîtes, hein, on est plus de 300 salariés.
Ouais.
Si vous avez pas 10% de seniors, et ben voilà, vous paierez des amendes tous les ans.
Alors, le MEDEF a raison. Ça sert à rien de faire la politique du bâton. Ça sert à rien. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est comme quand on emploie des jeunes et ben on leur fait des exonérations de charges, et ben je pense que ça serait la même chose.
Oui, que les seniors coûtent un peu moins cher. Quand on embauche un senior, on paye moins de charges.
Les seniors, ça coûte cher, quoi. C'est-à-dire qu'un salaire de senior, c'est pas un SMIC.
Bien sûr. Vous avez raison.
C'est-à-dire qu'un jeune qui commence à 18-19 ans, qui a encore la chance, je le dis bien, la chance d'être chez papa-maman, qui n'a pas beaucoup de frais, qu'on paye le SMIC, il peut rester comme ça pendant un an et parce qu'il doit faire ses preuves. Nous, les preuves, on les a faites.
J'ai envie de vous dire, Bruno, que c'est aussi le même problème pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes. C'est-à-dire, en fait, c'est le problème en France, c'est que quand on a moins de 30 ans, on nous dit non, on ne vous embauche pas, vous n'avez pas assez d'expérience. Et quand on a plus de 50 ans, on vous dit bah non, vous avez trop d'expérience, vous coûtez trop cher. Il y a un côté, on exclut tout ce qui est en dehors de 30 à 50 ans, quoi.
Mais on vit une période complètement inédite, hein, parce que moi j'ai regardé en termes d'immobilier un petit peu où on va, où on en est. Là, on vit dans une, au niveau des acheteurs en tout cas, et là on vit dans une situation complètement inédite qu'on n'avait jamais connue, c'est-à-dire que tout a augmenté. Mais quand on dit tout, c'est tout. Même mon logiciel informatique a augmenté, pour vous dire.
Oui. Donc la période n'est pas simple. Mais en tout cas, Bruno, je vous remercie d'avoir en tout cas témoigné sur cet aspect de l'emploi des seniors, de nous dire, bah vous nous le dites clairement, j'ai eu le sentiment ces dernières années d'être inemployable parce que j'avais 55 ans et vous avez trouvé l'alternative, Bruno. Bravo, parce que vous vous êtes bougé, vous n'avez pas choisi d'attendre ou de subir la situation. Vous êtes mis à votre compte et merci d'être venu témoigner ce matin très directement au 32-16, d'avoir lancé le débat, parce qu'avec vous c'est très clair, j'ai envie de dire qu'on dit clairement les choses ce matin sur la réalité du marché de l'emploi pour les seniors aujourd'hui en France. Je vous remercie, Bruno, d'être passé par le 32-16. On vous souhaite bon courage pour la journée de boulot, Bruno.
Merci.
À très vite.
À bientôt,
et bon
Bruno.
Aussi.
À bientôt. Bah, nous, c'est un plaisir d'être avec vous le matin et d'échanger avec vous, Bruno. Merci beaucoup d'être venu, voilà, planter le décor ce matin au 32-16. Vous faites comme Bruno, vous n'hésitez pas ce matin à venir témoigner. Vous avez plus de 50 ans, 55 ans, 60 ans. Racontez-nous la réalité du marché de l'emploi. Vous êtes patron aussi. Dites-nous si vous jouez le jeu, si vous conservez vos salariés passés 55 ans. Est-ce que vous embauchez des seniors? Est-ce que la France a un vrai problème avec l'emploi, avec l'embauche des seniors aujourd'hui? N'hésitez pas à nous le dire aussi. Vous témoignez au 32-16 ou sur Direct Studio, hein, sur l'appli RMC, vous le savez. On lit vos messages en direct et puis on va aussi vous faire gagner des beaux cadeaux avec la voix du jour juste après 5h. On va aussi continuer à parler du marché du travail dans le choix d'Anaïs.
Ouais, je vais vous parler de ces Français prêts à gagner moins pour travailler moins. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Notre rapport au travail évolue, c'est ce que montre une enquête IFOP qui vient de sortir. Je vais tout vous dire, 5h10.
Et puis tout de suite, c'est les histoires de la bande. Toute l'équipe de Charles Matin qui s'installe autour de la table pour nous faire sourire avec ces histoires insolites. Ne bougez pas, c'est tout de suite.
RMC, les histoires de Charles Matin.
Et oui, les histoires de toute la bande qui vient de s'installer autour de la table. Anaïs, évidemment, est toujours là. Géraldine Demory. Bonjour, Quentin Dubois.
Bonjour, tout le monde.
Quentin du Standard. Anthony Kazmarek, notre chef d'orchestre. Salut, Anthony.
Bonjour à tous.
On commence avec Géraldine qui, ce matin, nous explique, Géraldine, que la Terre ne tourne vraiment plus rond.
Eh ben, en tout cas, oui, c'est la conclusion de deux chercheurs de l'université de Pékin. Alors, je vous rassure, la Terre continue bien de tourner. Mais pour ces deux chercheurs, en fait, c'est le noyau terrestre qui se serait mis à tourner dans l'autre sens. Alors, on est 5000 km sous la surface de la Terre. Le noyau terrestre, c'est une boule essentiellement constituée de fer qui flotte. On connaît pas grand-chose dessus. Mais les deux chercheurs chinois ont étudié les analyses d'ondes sismiques sur les 60 dernières années. Et pour eux, le noyau terrestre se serait pratiquement arrêté de tourner en 2009. Avant de repartir dans l'autre sens, un petit peu comme une balançoire. Et ce serait comme ça tous les 35 ans, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et figurez-vous que ça pourrait avoir des conséquences sur la durée de notre journée. Les jours pourraient raccourcir de quelques fractions de secondes. Bon, pas sûr que ça chamboule tout notre emploi du temps.
Donc on s'en rend pas compte, ouais, quand cette boule se met à tourner un coup dans un sens, un coup dans l'autre, comme le dit, tous les 35 ans. Ouais, ça fait long, 35 ans, pour un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ouais. Merci Géraldine pour cette info au cœur de la Terre ce matin. On passe à Quentin Dubois en cherchant un prénom pour leur futur bébé, Quentin. Un couple américain a fait une drôle de découverte.
Alors oui, c'est en regardant leur arbre généalogique respectif sur un site web pour trouver des idées de prénoms que le couple s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes arrière-arrière-grands-parents.
Oula.
Dans la panique, ils ont appelé leurs grands-parents qui ont confirmé avoir vécu une partie de leur enfance ensemble.
Oh là là.
Et leurs ancêtres, eh bien, sont bien les mêmes. Ils sont donc cousins au troisième degré. Oh. C'est Marcella, la future maman, qui a partagé la nouvelle via une vidéo TikTok. Elle avait besoin de se confier.
Attends, ils s'en sont rendus compte au moment de la grossesse? Ça fait combien de temps qu'ils étaient ensemble?
Non, il leur a fallu 10 ans pour s'en apercevoir. Sans le bébé, ils seraient toujours pas au courant. Okay. Alors Marcella a expliqué en fait qu'ils se sont mariés rapidement après le boulot un mercredi sans aucune famille présente. Et elle s'est même demandé ce qu'elle aurait fait si le jour du mariage les grands-parents avaient été présents et qu'ils avaient découvert la terrible vérité.
Ouais.
Je crois qu'elle a toujours pas trouvé la réponse.
Ouais, mais comme tout le monde, on se marie rapidement, ça s'appelle le boulot. C'est le principe à l'américaine. Anthony Kazmarek, oui. Avec toi, on reste aux États-Unis avec une annonce d'emploi qui nous propose un job de rêve, être payé pour manger du fromage et dormir.
C'est le centre américain très sérieux Sleep Junkie, spécialisé dans le sommeil, hein, qui recherche en effet 5 volontaires, 5 cobayes. Alors cobayes, n'exagérons rien, puisqu'ils vont simplement devoir manger du fromage avant de dormir, et cela pendant 3 mois dès le mois de mars.
Mais moi, on a connu pire. Ça fait 30 ans que je fais ça, ça n'a pas besoin de faire 3 mois là. Mais ça fait 30 ans que je m'entraîne, je suis prêt.
On a connu pire quand même comme job, faut l'avouer. Mais oui. Alors quelques détails quand même, les volontaires devront avoir une montre connectée toute la nuit autour du poignet, elle permettra de mesurer la qualité du sommeil. Et puis ces petits chanceux devront aussi noter à leur réveil les souvenirs de leurs rêves ou de leurs cauchemars. Alors combien vont-ils toucher pour se remplir la panse et ronfler? Quand même 920 € au total sur les 3 mois, plus tous les frais dépensés en fromage qui seront remboursés. Ça promet quand même de belles soirées raclettes pour les heureux élus.
Mais t'es un peu dégoûté à la fin.
Il faut dormir seul, hein.
Dégoûté?
Non.
Manger du fromage tous les jours. C'est la France, madame. Manger du fromage et dormir, ça s'appelle la France. Ouais. D'accord, Anaïs?
Ouais, d'accord. Ok.
Ah, Charles. Je sens bien que tu veux changer de sujet. Ça tombe bien, c'est à toi, Anaïs. De nous parler de Renaud. Renaud qui fait son grand retour sur scène aujourd'hui.
Ça fait plus de 5 ans qu'il n'est pas remonté sur scène. La dernière fois, c'était en septembre 2017 pour son Phoenix Tour. Le chanteur Renaud, 70 ans, est attendu ce soir à la Scala Provence d'Avignon dans le cadre de sa nouvelle tournée appelée Dans mes cordes. Tournée intimiste. artiste avec quelques musiciens seulement et il prend les choses très au sérieux. Apparemment, il a fait des cours de remise en forme, du coaching vocal. L'idée, c'est de retrouver son public, mais aussi de montrer à sa nouvelle amoureuse de quoi il est capable. 40 dates au total, dont plusieurs à Paris au mois de mai. Et le bouquet final aura lieu au Francofolie de La Rochelle les 14 et 15 juillet prochains.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica.
Tout ce qui tombe ce soir sur scène.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
5h10 sur RMC, bon réveil à tous, c'est l'heure de l'info en plus dénichée par Anaïs Castagna.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Oui, Anaïs Castagna, je dis ton nom de famille parce que c'est un sujet sérieux. Je mets un peu de solennité là-dedans, mais oui, Anaïs, c'est très important. En plein débat sur la réforme des retraites, tu as choisi de nous présenter cette étude sur le rapport des Français au travail. Un rapport qui a considérablement évolué au cours des dernières décennies.
Oui, avant, les Français acceptaient de cravacher tout le temps pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. Ils plaçaient le travail au premier plan. Une vie de labeur et de stress.
Alors je peux donner des ordres peut-être ?
Chef, oui, chef !
Est-ce que t'es tout perturbé ? Est-ce que t'es tout nerveux ?
Chef, je suis nerveux, chef !
Mais tout ça, c'est fini. C'est ce que montre une enquête de l'IFOP pour l'Institut Jean Jaurès. Il y a 15 ans, près de 2 Français sur 3 acceptaient d'avoir moins de temps libre pour avoir des revenus plus importants. Aujourd'hui, le rapport s'est totalement inversé. Plus question de passer leur vie au boulot. Les Français, ce qu'ils veulent, eux, c'est...
le temps, et rien d'autre, le tien, le meilleur, celui qu'on veut.
Avec la famille, les amis, les amours, du temps pour soi aussi, car c'est plus seulement au travail qu'on s'accomplit. Et tant pis si les caisses sont un petit peu moins remplies. Seul un salarié sur 5 juge le travail très important, contre 60% dans les années 90.
Un changement qui ne date pas d'hier. Hein.
Oui, on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire pour dire que de nombreux Français avaient eu comme une révélation pendant les confinements. Ils ont réalisé que profiter de la famille, des proches, c'était important.
C'est important, vous avez une famille, vous regardez grandir tous les trois. C'est le plus beau spectacle auquel j'ai assisté dans toute ma vie.
Mais en fait, ça fait un moment que le changement est en marche, que les Français portent un regard différent sur le travail et la place qu'il doit avoir dans leur vie, une trentaine d'années, peut-être même plus d'ailleurs.
Et comment on explique ?
Les Français ont connu des années de chômage de masse, des années à scruter la fameuse courbe.
Il y a un chômage qui progresse. Mon premier objectif, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année.
Situation qui aurait totalement désacralisé l'idéal de réussite par le travail. On nous a tellement dit que ce serait dur de trouver un emploi et de gravir les échelons qu'on a trouvé d'autres moyens de s'épanouir. Par exemple, les loisirs, les voyages qui se sont énormément développés et démocratisés. Et puis la société est aussi plus individualiste, ce qui explique qu'il place le travail et le collectif au second plan. Aujourd'hui.
Ouais, mais alors quand on t'entend, on a presque l'impression qu'on serait devenus des gros feignants, quoi.
Les paresseux se nourrissent de feuilles pauvres en nutriments, ce qui explique leur manque d'énergie. Cet animal ne fait pratiquement rien. Et il est extrêmement doué pour ça.
Eh bien non, Charles, nous ne sommes pas des paresseux. Les trois quarts des Français affirment qu'ils font en général plus que ce qui est attendu d'eux au travail. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont un poil dans la main. Ils veulent juste avoir l'assurance de pouvoir avoir du temps pour profiter de la vie à côté du boulot. Car oui, le travail n'est plus ce qui définit les Français, ce qui les rend fiers. D'ailleurs, de moins en moins de Français se disent corporate. Aujourd'hui, le travail, pour nombre d'entre vous, c'est un moyen de financer tout ce qui peut être source de bonheur personnel. C'est pour ça que les Français sont aussi nombreux à s'opposer au report de l'âge légal du départ à la retraite. D'ailleurs, les seuls qui y sont majoritairement favorables, à part les partisans d'Emmanuel Macron, ce sont les seniors, ceux qui ont toujours placé le travail au premier plan, finalement.
Oui, donc les plus âgés, en tout cas, il y a un changement de génération dans
exactement
le rapport au travail.
Et exactement.
Les plus jeunes ne mettent pas forcément la valeur travail tout en haut, contrairement à leurs aînés, on va le dire comme ça, par rapport à nos parents, très clair.
On n'est plus prêt à faire les mêmes sacrifices aujourd'hui.
Oui, et puis il y a eu l'effet de la crise sanitaire qui est passée par là, et on a un autre rapport
bien
au,
sûr,
au temps libre et au loisir.
Et c'est ce qu'on note aussi dans cette étude, c'est très important, très intéressant.
C'est très important, et justement, tu parlais de la réforme des retraites, on va y revenir tout de suite avec vous, au 32-16, et tu parlais des seniors, on va parler de l'emploi des seniors ce matin, parce que que c'est l'une des conséquences de cette réforme des retraites. Si on repousse l'âge légal de départ à 64 ans, comme le souhaite le gouvernement, ça veut dire qu'il va falloir que les entreprises embauchent et conservent les seniors un peu plus longtemps. Sauf qu'en France, on le sait, on est mauvais élèves en matière d'emploi des seniors. On va parler de cette réalité avec Jérôme, qui a composé le 32-16 ce matin. Jérôme, qui nous appelle de la Gironde, du côté de Bordeaux. C'est ça? Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour tout le monde. Oui, c'est ça.
Bonjour,
c'est
Jérôme.
Ça. Alors, je dis Bordeaux, mais je sais pas, comme je vois que vous êtes routier, c'est ça, Jérôme, peut-être déjà au volant, là, à cette heure-ci?
Pas encore, là. Je vais rouler une fois que j'aurai, je vais partir une fois que j'aurai fini de discuter avec vous.
D'accord, bah parfait. Bon, voilà. Alors,
merci de nous accorder un peu de temps.
On vous prend deux minutes et on vous laisse partir, on vous laisse démarrer ensuite, Jérôme.
Non, mais c'est bon, mon café est chaud, j'ai le temps.
Parfait. Alors, hier, Jérôme, le gouvernement a donc présenté en Conseil des ministres son texte, cette réforme des retraites. Et à l'issue, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dit, sur la question de l'emploi des seniors, on va essayer de mettre en place un index, on va demander aux grandes entreprises, à celles qui ont plus de 300 salariés, de nous dire, de publier leur index d'emploi des seniors, combien de seniors elles embauchent, et si elles ne publient pas cet index, on pourrait envisager des sanctions, mais en tout cas, pas question pour l'instant de les sanctionner si elles n'embauchent pas assez de seniors. Est-ce qu'il faut aller plus loin en France, Jérôme? Est-ce qu'on embauche assez de seniors en France? Est-ce qu'il faut sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu?
Mais le problème, il n'est pas là, c'est qu'il y a une contradiction total. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se souvenir ce que les uns et les autres disent. Alors, je vais essayer d'aller vite sans... pour élaborer. On a le MEDEF qui est en train de vouloir, qui est pour la réforme de 64 ans. Et là, tout à l'heure,
on va écouter la porte-parole du MEDEF. On la réécoutera tout à l'heure, mais elle dit, ça sert à rien de nous sanctionner, il faut nous inciter, on va jouer le jeu, vous inquiétez pas,
Déjà, il y a une incohérence complète. Ensuite, moi, j'ai bien écouté notre président de la République qui avait dit que c'était hypocrite de dépasser les 62 ans, parce qu'à partir de l'amener à 64 ans, il y a quelque temps de ça, parce que les seniors n'étaient pas conservés. Mmh. Et j'ai aussi le souvenir de M. Macron avec un débat...
Mais c'était avant, on va dire que c'était du temps du premier quinquennat, on va le dire comme
non,
ça.
Non, mais là, le dernier débat qu'on a vu, qu'il a fait avec Mme Le Pen, alors je suis absolument pas du tout Rassemblement National. Mais bon, j'essaye d'écouter, je peux comprendre, et là, lui dit que... quand elle voulait augmenter les salaires et tout ça, elle lui disait que c'était pas elle qui allait faire les chèques pour le gouvernement, pour les artisans, et qui allait décider de ce qui devait se passer dans les entreprises. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ou je comprends pas.
Là, pour l'instant, ils disent aux entreprises, il faut afficher publiquement combien de seniors vous embauchez.
C'est assez important. Donc c'est très dur de conserver les seniors. Et travailler jusqu'à 64 ans.
Vous avez quel âge, vous, Jérôme?
Alors moi, j'ai 56 ans. Alors le paradoxe que j'avais, moi, c'est que je suis routier. J'ai pas toujours été routier. Mais moi, je veux qu'on m'explique. J'ai une visite médicale tous les 5 ans jusqu'à 60 ans. Mmh. Et à partir de 60 ans, je suis obligé de passer 2 visites médicales par an. Et pendant 2 ans, on m'a expliqué qu'à partir de 60 ans, avec le Covid, on était personne à risque. Et là, on va nous faire travailler jusqu'à 64. Alors, qu'on m'explique. Cohérent, qu'on m'explique.
Oui, et puis même, est-ce que vous voyez tenir jusqu'à 64 ans, là, derrière un volant?
Alors, je vais faire peut-être bondir des collègues à moi, mais je vais être franc. Moi, j'ai été issu à la base du bâtiment. J'ai été maçon dans une petite j'ai fait mon CAP et tout ça, mes premières études en maçonnerie dans une petite entreprise de 4 à 5 ouvriers. Je tiendrai plus chauffeur poids lourd que maçon. Dans une petite entreprise. Donc,
c'est moins pénible,
moment,
en tout cas, pour vous.
C'est moins pénible. C'est pas le même stress et c'est pas le même effort. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on est en train de nous expliquer qu'on va voir la pénibilité, mais le premier, avec le MEDEF et M. Macron, qui ont enlevé le port des charges lourdes dans la pénibilité, à partir de là, dites-moi le métier qui n'est pas pénible.
Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, ça va être dans le cadre de cette réforme très important de suivre les nouveaux critères. Le gouvernement a promis de les mettre à jour.
Le problème qu'il y a, c'est que c'est là où les gens n'ont pas confiance.
Bien sûr.
C'est pour ça que les gens se révoltent. Avec le MEDEF, à M. Roux-de-Bézieux et M. Macron et son gouvernement, quand il a pris le quinquennat, la première chose qu'il a fait, ils ont enlevé les positions assidu et les charges.
Oui, ça, vous avez raison. Il y a certains critères, en tout cas, qu'on sautait dans les calculs de la pénibilité. Mais j'en reviens à l'emploi des seniors avec vous, Jérôme. Vous nous dites, moi, j'ai toujours bossé, que ce soit dans le bâtiment, aujourd'hui chauffeur routier. Vous nous dites, c'est un boulot moins pénible que quand j'étais dans le bâtiment. Je me vois tenir jusqu'à 64 ans. Mais surtout, est-ce que là, vous avez du boulot facilement? Vous êtes sur un marché où on recrute facilement. On n'a pas peur d'embaucher un chauffeur de 60 ans. Il trouve du boulot aujourd'hui, Jérôme?
Alors, moi, je vais vous expliquer mon cas. Il y a 5 ans de ça, j'ai changé d'emploi parce que j'étais dans un truc où je faisais beaucoup d'heures et j'ai voulu un petit peu baisser le pied, faire du grand régional plutôt que de rouler longtemps. Mm-hmm. Quand j'ai téléphoné pour voir une boîte où je suis actuellement, je leur ai dit que je cherche une boîte, c'était au téléphone. Bon, le gars me dit, oui, bon, pas de problème. Et à cette époque-là, j'avais 50 ans. Bon, j'ai dit, à mon avis, faut que je passe quand même que j'ai 50 ans dans la ouais. discussion. Et je lui dis, bon, par contre, faut que je vous le dise avant de m'envoyer mon CV. J'ai 50 ans. Et là, mon patron actuel, enfin, pas, ben, parce que malheureusement, il est décédé, entre temps. Mm-hmm. Mais à l'époque, il m'a dit, vous avez 50 ans, je vous attends de suite.
Ah, donc ça lui plaisait même que vous ayez un peu d'expérience.
Il y a de l'expérience, mais bien bon, sûr. C'est toujours pareil. Moi, ce que je fais là, je fais pas du débâché, du bâché. On peut arriver dans certaines entreprises, arriver à placer par rapport. Moi, j'ai des collègues à moi qui sont plus vieux que moi, qui sont 62 ans, mais ils font que du décrochage et du raccrochage de remorques. Ils font que de la conduite. Ils déchargent pas les camions.
Il faut adapter. Pas. Bah oui, mais il faut adapter voilà. aussi l'emploi.
Les entreprises ne peuvent pas le faire.
Oui, mais on entend bien que vous êtes tombé sur un patron, voilà, qui avait compris la valeur aussi d'avoir un chauffeur peut-être un peu plus âgé, un peu plus expérimenté, comme on dit. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Vous êtes bien tombé, Jérôme. Mais voilà, c'est pas toujours le cas. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin, Jérôme, de cette réalité de l'emploi. Bah, il y a aussi des histoires positives, évidemment, quand on parle d'emploi des seniors, notamment avec vous ce matin, Jérôme, qui avait pas l'air très inquiet à l'idée de conduire un peu plus tard. Vous venez nous dire, vous, ce matin, si comme Jérôme, vous avez retrouvé facilement du boulot, passé 50, 55 ans, vous nous le dites, Jérôme, vous reconnaissez que c'est une forme de chance, mais qu'il faut aussi adapter l'emploi, qu'on n'emploie pas, on met pas au même poste quelqu'un de 60 ans et quelqu'un de 30 ans. Venez nous dire, vous, ce matin, si comme Jérôme, vous avez facilement retrouvé du boulot après 50 ou 55 ans, cette réalité du marché de l'emploi des seniors, on continue à en débattre avec vous. Jérôme parlait de la position du MEDEF sur la question. Bah, on va l'entendre, le MEDEF, juste après le journal de 5h30 sur RMC. On continue ce débat avec vous au 32-16, mais dans cette actu chargée, eh ben, on a besoin de se marrer. Et ça, c'est Arnaud Demange qui s'en charge tout de suite sur RMC. C'est votre rendez-vous. Le meilleur d'Arnaud Demange tout de suite sur RMC.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Au Parti Socialiste, Arnaud, il y a Olivier Faure qui a été confirmé premier secrétaire après un week-end de contestation, sauf que Nicolas Mayer-Rossignol, son adversaire, continue lui aussi à revendiquer la victoire.
Ouais, c'est compliqué l'élection de Mister PS. Hein. Ça semblait difficile de creuser plus bas qu'ils étaient. Ils ont quand même trouvé des pelles, dites donc. Et alors, ils ont fait 1,75 au présidentiel. Ils cherchent visiblement quelqu'un capable de faire encore moins bien. C'est pas mal parti. Alors, Olivier Faure contre Nicolas Mayer Rossignol, bah c'est Batman contre Superman, hein, c'est Alien contre Predator, c'est les Charlots contre Dracula, c'est Shakira contre Piqué. On présente les deux stars, Olivier Faure, ancien directeur de cabinet de François Hollande et ancien coloc de Benoît Hamon. On a les lignes qu'on peut sur son CV. Et Nicolas Mayer-Rossignol, ingénieur chimiste et spécialiste de la biologie moléculaire. Moi, si j'avais été socialiste, je me serais dit... Un mec spécialisé dans les molécules et les toutes petites structures, c'est lui qu'il nous faut. Sauf qu'il est chimiste et maire de Rouen. Et à Rouen, les usines n'arrêtent pas d'exploser en ce moment. Il faudra peut-être lui confisquer son chlorure de phosphate à Nico, là, ou je sais pas quoi. Là, il est même parti pour faire exploser le PS. Il est énervé.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Alors, après un suspense haletant, vraiment haletant, moi j'étais passionné comme Apolline devant un épisode de sa série préférée, Petit secret entre voisins. Vous savez, la série avec des acteurs qui disent, des acteurs qui sont face caméra et qui disent, bon, là quand même, Pierre commençait à m'inquiéter. Son attitude était très suspecte. C'est un suspense de type typiquement socialiste. Donc, Olivier Faure se revendique vainqueur avec 50,83% des voix et déclare, c'est une victoire. Clair et net. 50% de 22 personnes, c'est pas retentissant non plus. Les effectifs socialistes sont désormais divisés en deux équipes. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un foot Deux équipes de 11, je réglerai ça sur le terrain, moi. Ça marcherait très bien.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et oui, c'est tous les jours. Et donc, c'est tout à l'heure, en direct, qu'on retrouve Arnaud de Manche pour ces deux rendez-vous dans Apolline Matin à 7h20 et 8h20. On l'a déjà hâte. Mais à 5h25, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Romain qui est avec nous au 32-16, qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Romain.
Bonjour.
Salut Romain, comment ça va?
Ah super, merci beaucoup.
Ouais, levé tôt pour le boulot, Romain?
Exactement, j'ai au travail.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Romain?
Manager de rayon.
Manager de rayon, c'est-à-dire dans une grande surface?
Oui, tout à fait.
Ok, et donc levé tôt pour le boulot avec RMC pour vous accompagner le matin. Et vous avez même eu le bon réflexe, vous avez tenté votre chance à la voix du jour, Romain. Ben, on va vérifier.
On va voir si vous avez reconnu la voix du jour. On va réécouter cette voix entendue juste après le journal de Marguerite tout de suite et on aura votre réponse dans la foulée.
Pour gagner ce trophée-là, il faut battre tous les adversaires qui se présentent. C'est Marseille, ça sera pas facile, mais la saison dernière, le Paris Saint-Germain ne l'a pas emporté. Il y a une réelle envie de gagner ce trophée-là.
Alors Romain, qui a envie de gagner le trophée?
Eh bien, Christophe Galtier.
Eh bien, c'est Christophe Galtier, le coach du PSG. Hier soir, à l'issue de la qualif des Parisiens face à Pays de Cassel, hier soir, victoire 7-0 face aux amateurs pour le PSG. Vous avez reconnu Christophe Galtier. Et donc, comme les Parisiens, Romain, ce matin, vous avez gagné.
Vous avez gagné deux places de ciné pour aller voir le film Mayday, film d'action qui sort en salle dès demain. Bravo.
Merci beaucoup.
Et voilà une journée qui commence bien. Romain, on vous envoie vos places de ciné. Et ne quittez pas, on vous souhaite d'abord bon courage pour le boulot.
Merci.
Et bonne journée. Et ne quittez pas parce qu'on va prendre vos coordonnées hors antenne pour vous envoyer vos places de ciné et la voix du jour qui revient évidemment demain dès 5h pour récompenser les leftos sur RMC à 5h27. Le journal de Quentin Vinet approche. Là, Quentin vient de s'installer en studio. Géraldine Demory aussi est là pour la météo. Mais d'abord, l'info bonus d'Anaïs. Anaïs, la série culte Caméra Café, fête ce soir, c'est 20 ans à la télé sur M6.
Soirée spéciale sur M6 à partir de 21h10 avec un épisode de 50 minutes intitulé 20 ans déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle le concept. Dans Caméra Café, on suivait la vie d'une entreprise et surtout de ses salariés à travers les ragots racontés à la machine à café avec le duo de choc Yvan Le Bolloc, Bruno Solo. Eh bien ce soir, on va les retrouver.
Tu fais ton petit café?
Mais bien sûr, où avais-je ma tête?
Je sais pas si tu regardais Charles Caméra
si,
Café,
beaucoup,
ça,
beaucoup, ouais.
Ça parlait de tout ce qu'on parle entre collègues, notamment réforme des retraites.
C'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps avant de partir en retraite?
Ah oui, 40 années de cotisation ne suffiront pas. Faudra 41, voire 42 ans.
Mais comment que je fais si je me fais virer à 50 ans?
Bien, vous attendez de retrouver du travail pour cotiser à nouveau.
Bah oui, mais à 50 ans, je risque de canner avant de retrouver un job, moi.
Ah, comme ça, vous n'aurez plus à cotiser.
C'est M6 qui a mis en ligne cet extrait il y a quelques jours. Des milliers de likes et de retweets en pleine réforme des retraites. D'ailleurs, Yvan Le Bolloc ne s'est pas gêné. Lui qui dénonce la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, il l'a encore fait hier sur BFM TV.
Ouais, Yvan Le Bolloc, oui, très engagé en politique, on le sait. Mais en attendant, ce soir, c'est Jean-Claude Convenant qu'on va retrouver, le fameux commercial de Caméra Café.
Jean-Claude et Hervé,
ce soir, pour cette soirée hommage sur M6, 5h28. Tout de suite, c'est un peu le Jean-Claude Convenant des RMC, c'est Quentin Vinet qui arrive pour les infos. Mais d'abord, Géraldine Demory, la météo.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h20, bon réveil à tous sur RMC. Alors, est-ce qu'il faut sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors?
C'est la question du jour sur RMC.
62, 64, 67 ans, c'est la question du moment. À quel âge pourra-t-on partir à la retraite? Mais en décalant l'âge de départ, le gouvernement soulève un autre enjeu du marché du travail en France, celui de l'emploi des seniors.
Car faire travailler les Français plus longtemps implique que les entreprises embauchent et conservent leurs salariés âgés de plus de 55 ans. Ce qui est loin d'être évident, le taux d'emploi des seniors est seulement de 56%, en dessous de la moyenne européenne à 60,5%.
Et c'est pourquoi, dans son projet de réforme, le gouvernement prévoit un outil pour favoriser l'emploi des seniors.
Un index senior qui doit être mis en place dès cette année dans les grandes entreprises de plus de 1000 salariés et à partir de 2024 pour les entreprises de plus de 300 salariés. Il va obliger les directions de ces entreprises à publier le nombre de seniors qu'elles emploient, faute de quoi des sanctions pourraient être appliquées. C'est ce qu'a expliqué hier Olivier Dussopt, le ministre du Travail, interrogé sur le sujet.
Une entreprise qui ne respectera pas cette obligation de publicité et donc de transparence sur les résultats qui sont les siens en matière d'index senior fera l'objet d'une sanction financière, comme c'est le cas pour l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le problème, c'est que c'est juste une obligation de publication. Les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors ne seront pas sanctionnées.
Alors, faut-il justement aller plus loin, mettre en place des sanctions pour une entreprise qui n'emploierait pas assez de seniors? La réponse est non pour le, du côté du MEDEF. Hein, c'est ce que nous dit la porte-parole du MEDEF, Dominique Carlac.
Une solution globale avec le bâton ne fonctionnera pas. C'est pas parce qu'on mettra des amendes aux entreprises que pour autant, du jour au lendemain, elles pourront changer une génération de compétences ou une pyramide des âges des compétences. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut former et puis il faut un plan qui dit, bon ben voilà, moi sur telle et telle fonction, j'ai besoin et j'ai envie de recruter des seniors. Une solution par branche où on se donne des objectifs et où on peut contrôler l'avancée des objectifs, ça, ça peut fonctionner.
Mais pour l'économiste Henri Sterdignac, sans contrainte, les entreprises n'embaucheront pas plus de seniors qu'auparavant.
Il serait évidemment souhaitable de mettre sur pied un système de sanctions pour inciter les entreprises effectivement à agir correctement. Nommer les entreprises qui jouent pas le jeu, l'effet est moins dissuasif que d'avoir une amende, même si l'amende est de faible montant, eh ben, il faut expliquer ensuite aux actionnaires pourquoi on a eu cette amende. Donc, c'est difficile à mettre en œuvre, mais je pense que c'est quand même indispensable si on veut effectivement réussir cet objectif.
Voilà, il faut sanctionner les entreprises qui n'embauchent pas assez de seniors, dit Henri Sterdignac. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez ce matin au 32-16, même plus largement, quelle est la réalité aujourd'hui que vous vivez en tant que senior? Peut-être, n'hésitez pas. Tiens, je vois que Christian nous appelle depuis Talence, en Gironde. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour, Charles. Bonjour, Anaïs.
Alors, Christian, je ne sais pas si je peux vous classer dans les seniors. Si j'en crois la fiche que j'ai sous les yeux, vous avez 55 ans, c'est ça?
Exactement.
Ouais, donc vous êtes voilà à la frontière de
dans le pile truc quoi.
Ouais, vous êtes un jeune senior, on va le dire comme
exactement.
Ça. Christian, tout jeune senior, mais alors racontez-nous, est-ce que dans quel domaine vous bossez aujourd'hui? Est-ce que ça a été simple de trouver du boulot à votre âge?
Alors, je bosse dans le domaine du TPT, donc je bosse dans la retraite. En fait, j'aide des personnes par téléphone à j'ouvre des dossiers de retraite, j'ai fait de la complétude des dossiers de retraite.
Ah bah ça nous intéresse là. Attendez, on a besoin de vous, Christian. C'est vous qui nous aidez à remplir les dossiers de retraite. Donc
exactement.
Vous devez avoir pas mal de boulot et pas mal de questions en ce moment du côté du public.
C'est vrai, je suis pas mal sollicité, c'est vrai.
Oui, bah j'imagine. Mais alors d'abord, racontez-nous votre situation. Ça fait longtemps que vous faites ça?
Alors je fais ça depuis 2 mois. Je suis en période d'essai. Donc là, ma période d'essai va être renouvelée. Avant j'étais pendant 19 ans dans consultantée dans la téléphonie. J'ai fait un pari fou de quitter mon boulot et de vouloir faire une formation d'assistant commercial et de communication.
Donc Christian, juste pour résumer, vous aviez plus de 50 ans, vous aviez une vingtaine d'années d'ancienneté dans votre métier, vous avez choisi de changer de boulot après 50 ans, comme quoi c'est possible. Et là, vous nous dites, ça fait 2 mois que je suis en poste, donc à 55 ans, vous avez trouvé un nouveau boulot.
Ouais, et puis j'avais postulé pour une annonce pour un poste d'assistant administratif dans une collectivité. Donc ça veut dire que du boulot, il y en a. Je pense que le marché est beaucoup plus ouvert maintenant par rapport aux seniors.
D'accord.
Je pense que ça dépend des secteurs, mais je pense que oui, potentiellement.
Est-ce que je veux dire, Christian, dans vos recherches d'emploi, on vous a jamais fait comprendre que vous étiez trop vieux?
Non, j'ai jamais donné mon âge. J'ai fait passer d'abord les compétences, mon savoir-faire. Ça y fait quoi. Je pense que c'est du donnant-gagnant en fait.
Oui, ça n'a pas été une question, mais alors pourtant, j'imagine que dans les dossiers que vous voyez, que vous nous dites, j'aide les gens d'un point de vue administratif. C'est ça, vous êtes conseiller, je ne sais pas comment on dit ça, conseiller clientèle dans la retraite. Vous devez le voir, non, parmi les dossiers que vous voyez passer, il y a des gens quand même qui après 55, 60 ans ont de plus en plus de mal à trouver du boulot.
Oui, tout à fait. Mais après, je pense qu'en France, on est trop sur le jeunisme et je pense qu'il faudrait plutôt que de mettre des sanctions, je pense qu'il faudrait plutôt inciter les entreprises à prendre des seniors par des primes comme cela a été fait pour les contrats d'apprentissage pour les jeunes. Mmh. Je pense que ce serait une meilleure solution.
Oui, qu'il y ait des incitations, je sais pas, des baisses de charges, vous avez raison, des bonus, que ce soit valorisé en tout cas financièrement quand une entreprise joue le jeu, embauche et surtout conserve des seniors. Parce
exactement.
Que là, si on parle d'aller jusqu'à 64 ans, il faut que les entreprises jouent le jeu. Christian, vous devez le voir, non, vous devez avoir beaucoup de départs anticipés, de pré-retraite. Non, il y a des entreprises qui, pour le dire clairement, se débarrassent des seniors, non, Christian?
Oui, tout à fait. Je pense qu'après, à partir d'un certain âge, on a plus envie de vous garder. Donc, moi, quand j'ai fait le pari de quitter et à la fin de la formation, je me suis posé la question, est-ce que maintenant je vais retrouver du boulot? Et finalement, je pense que j'étais confirmé. J'avais trouvé 2 boulots de conseil en tête, plus un autre boulot d'assistant administratif. Donc, je pense que à 55 ans, je pense qu'à mon avis, on intéresse potentiellement des entreprises, parce que je pense qu'on est des gens qui sont fiables, au niveau, je dirais, au niveau absentéisme et tout ça. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'on prend de plus en plus de gens qui ont un certain âge. Mais toutes les entreprises ne jouent pas le jeu.
Oui, toutes les, oui, c'est le problème. Il est plutôt du côté des entreprises. Vous nous dites, vous, Christian, qu'en tant que salarié, en tant que senior, vous êtes motivé, compétent, expérimenté. Merci beaucoup, Christian, d'être venu témoigner, vous le dites vous-même, de ce pari fou de changer de carrière, de changer de boulot, passer 50 ans. Mais ça a marché pour vous. Vous venez de trouver du boulot. Bon, on vous souhaite bon courage dans votre nouvelle carrière, Christian. Et merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin. C'est très précis sur cette réalité de l'emploi des seniors aujourd'hui en France. Et vous le dites bien, Christian, le problème, il est du côté des entreprises qui, pour certaines, ne jouent pas le jeu. C'est pour ça qu'on pose la question ce matin. Est-ce qu'il faut aller plus loin que le simple index prévu par le gouvernement, aller plus loin et sanctionner financièrement les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors, qui ne les conservent pas aussi jusqu'à 62, 64 ans, si on en croit la réforme, en tout cas selon le projet de réforme du gouvernement. On va continuer à en débattre avec vous, mais vous faites comme Christian dès maintenant, vous témoignez au 32-16 ce matin de la réalité de l'emploi des seniors. Est-ce qu'il faut, voilà, sortir le bâton et sanctionner les entreprises? Christian dit non, il vaut mieux mettre en place des incitations, des bonus, des baisses de charges pour les entreprises qui conservent leurs salariés jusqu'à 62, en tout cas au-delà de 60 ans, qui conservent leurs seniors au sein de l'entreprise. Venez prendre position, n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, on va continuer à en débattre sur RMC et RMC Story, hein, dans quelques minutes, il faudra allumer la télé, on vous retrouve sur le canal 23 de la TNT, mais d'abord vos deux rendez-vous, vous l'attendez, Anthony Morel vient de s'installer, bonjour Anthony.
Bonjour.
Au menu, et c'est le mot, au menu, pas c'est mal. Déjà demain.
Ouais, bah, je vous invite tous au McDo aujourd'hui, allez, allez. C'est ma tournée, voilà, mais c'est un bien. McDo un petit peu particulier évidemment.
Ah, un McDo particulier, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est suspense. On va en parler dans un instant. Et puis ensuite, il y aura un autre Anthony, Anthony Kaczmarek, qui nous rejoint pour son histoire. Salut Anthony.
Salut à tous. À Montpellier, l'Opéra recherche 1000 apprentis chanteurs et peut-être vous, Charles, Anaïs et Anthony.
Ah, bah on pousse la chansonnette dans un instant, mais d'abord à 5h49. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le moment de faire un point, de récapituler les trois infos à la une ce matin sur RMC avec Anaïs.
Un an après les révélations du livre enquête qui a fait la lumière sur la maltraitance dans les EHPAD du groupe Orpea, de nouveaux témoignages de maltraitance dans des EHPAD du groupe ce matin sur RMC. Écoutez ce que nous raconte Michael, dont les deux parents vivent dans une maison de retraite de la côte méditerranéenne.
Il y a une semaine ou deux, je rends visite à mes parents pour emmener ma mère chez le neurologue. Lorsque je viens la récupérer, je me rends compte qu'elle n'a pas les dents lavées. Et ça date de plusieurs jours.
C'est un témoignage RMC et c'est à suivre dans le journal de 6h. La réforme des retraites officiellement présentée hier en Conseil des ministres, une semaine avant la nouvelle journée de mobilisation le 31. Il se chiffre ce matin sur RMC qui prouve l'inquiétude des Français, plus 20% d'appels et de mails dans les caisses de retraite juste après l'annonce de la réforme par rapport à la même période l'an dernier. On y revient également toute la matinée. Et puis le PSG écrase le petit poucet du pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France. Victoire 7-0, dont 5 buts de Kylian Mbappé.
Il est 6h10 sur RMC. Anaïs, j'espère qu'elle a l'estomac bien accroché parce que Anthony Morel nous embarque tout de suite dans le fast-food du futur.
C'est déjà demain.
Rebonjour Anthony Morel.
Bonjour.
On part aux États-Unis où McDonald's vient de lancer un nouveau restaurant expérimental complètement robotisé. On n'y croise plus un seul être humain.
Ouais, c'est ça. C'est une expérience assez étrange, hein, qui est racontée par de nombreux internautes parce que évidemment le phénomène est devenu viral. Ils se sont rendus dans ce nouveau restaurant de Fort Worth au Texas, un McDo en apparence assez classique, si ce n'est qu'on n'y a aucun comptoir, pas de serveur, pas d'humain visible. On passe commande via des bornes ou une application mobile, et que ce soit dans le restaurant ou au drive, eh bien c'est un bras robotique qui vous tend votre commande, ou alors certains hamburgers terminent leur course sur un tapis roulant mécanique. Je sais pas à qui on demande si on a changé la sauce barbecue par du ketchup et qu'il y a eu une erreur dans la commande, mais bon, ça,
je vous laisse sans cornichon. Je sais pas comment on dit ça au robot.
Je sais pas comment ça se passe, tu vois. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, cette expérimentation elle a soulevé la colère de certains. Beaucoup critiquent le fait que McDo préfère tout automatiser plutôt que de mieux payer ses salariés qui sont parmi les moins bien payés des États-Unis. Alors eux se défendent en expliquant que ce sont quand même des humains encore, hein, en cuisine pour préparer les hamburgers et les frites.
Pour l'instant.
Pour l'instant, parce qu'il y a plein d'expérimentations. Une start-up qui s'appelle Miso Robotics notamment, qui est en train de complètement automatiser. Tu as des bras robotiques qui peuvent prendre le steak, le tourner sur le grill, le mettre sur le bun, ajouter le fromage, etc. Donc le burger robotisé, c'est pour demain, hein, clairement.
Ça pourrait arriver chez nous, en France ?
Oui, j'allais même te dire qu'on est même pionnier en la matière. Alors, on n'a pas de McDo comme ça, mais on a déjà, par exemple, des pizzerias robotiques. Je ne parle pas des distributeurs automatiques de pizza, je parle bien d'un pizzaïolo robotique. Il y en a plusieurs en région parisienne. C'est très étonnant comme spectacle. Donc, vous entrez dans le restaurant et derrière une vitre, sous vos yeux, trois bras robotiques s'activent. Ils malaxent la pâte, ils l'aplatissent, ils étalent la sauce tomate, déposent les ingrédients et une fois cuite, ils la découpent et la mettent dans un carton. L'avantage, c'est que ce robot pizzaïolo, eh bien, il peut sortir 100 pizzas par heure avec un grand grand niveau de qualité et des ingrédients.
C'est ce que j'allais dire.
Tu l'as goûté?
Franchement, c'est hyper bien parce que, en fait.
Ouais, mais comme... toi, tout ce que fait un robot, ça te séduit.
Non, mais tu vois, le truc, c'est qu'il faut être clair, ça leur coûte moins cher parce qu'il n'y a pas de frais de main-d'œuvre et du coup, ils peuvent mettre des ingrédients de meilleure qualité pour le même prix. Et du coup, tu te retrouves avec une pizza qui coûte pas très cher et qui est une vraie pizza de pizzaïolo, quoi.
Ouais. Pratique pour éviter les contacts peut-être, mais avec vos robots, avec tes robots, tu vas mettre tout le monde au chômage en fait.
Oui, alors c'est ça, pratique pour éviter les contacts parce que c'est vrai que ces pizzerias robotiques, ces robots dans les restaurants, ils s'installent de plus en plus depuis le Covid. Clairement, ça a été l'enjeu, ça a été d'éviter tous les contacts physiques. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'avec cette robotisation à outrance, on va pas mettre tout le monde au chômage? Pas nécessairement. En fait, faut rappeler quand même que là, on va remplacer essentiellement des jobs qui sont non pourvus. Il y a 220 000 emplois en France à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration. Mmh. On a du mal à recruter, en fait. On n'arrive pas.
Donc c'est des jobs que beaucoup ne veulent plus faire.
Exactement.
Simplement.
Et donc, en fait, le robot, il prend la place de personne. Simplement, il fait un truc que plus personne ne veut faire. Et puis, il faut aussi démythifier cette notion de robotisation. Ça fait des décennies que dans les usines, on automatise tous les processus pour fabriquer une voiture. Dans l'agroalimentaire, je veux dire, ça choque personne que ce soit pas des humains qui mettent les yaourts dans des pots et que ce soit des machines. Mmh. Pourquoi est-ce que ce serait pas la même chose pour les hamburgers, finalement? Et le dernier argument, c'est que, en général, les pays les plus robotisés, en fait, c'est ceux où il y a le moins de chômage. Tu vas en Corée du Sud, tu vas au Japon, tu vas en Allemagne, c'est les pays au monde où il y a le plus de robots qui sont utilisés et c'est des pays où il y a le plein emploi. Donc vraiment, c'est pas un argument. En revanche, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont nous, les humains...
Ce que ça veut dire, c'est que le métier de mon fils, ce sera pas de faire des hamburgers, mais de concevoir le robot,
machine,
ou de maintenir le robot.
Ou d'être opérateur de robot. C'est aussi une transformation. Mais tu soulèves un point très important, c'est que en termes de formation, il faut qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps. Maintenant, c'est pas dans 10 ans bien ou dans 15 ans que quand on se rendra compte que tout a été automatisé.
Le fast-food du futur, le plaidoyer pro-robot aussi d'Anthony Morel, c'est tous les matins sur RMC. Et évidemment, on va retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. Et tiens, tu sais déjà ce que tu vas nous raconter demain, Anthony?
Demain, de quoi je vais vous parler? Oui, je vais vous parler de votre future maison. Et votre future maison sera peut-être en carton.
Après le fast-food sans humain, okay, la maison en carton. Rendez-vous demain, 5h54. Allez, l'histoire d'Anthony.
L'histoire d'Anthony.
On change d'Anthony, on passe à Anthony Kazmarek, direction Montpellier avec toi, où l'opéra recherche 1000 apprentis chanteurs pour un concert géant.
Ça va se passer au Corum, où se trouve l'opéra Berlioz de Montpellier au printemps prochain. Une expérience inédite en France après une première à Berlin et à Londres en 2014. Il s'agit d'un concert performance qui s'appelle Crowd Out, ce qui veut dire saturé, étouffé, saturé de son évidemment. Une pièce pour 1000 voix, donc le but selon les organisateurs, c'est de ressentir un sentiment de communauté comme celui observé lors d'un match de foot. 1000 chanteurs, ça veut dire qu'il va falloir quand même recruter beaucoup beaucoup de monde.
Alors est-ce qu'il faut quand même avoir une belle voix ou l'oreille musicale pour s'inscrire? Ça m'intéresse.
Non, aucune expérience musicale n'est requise.
Donc c'est bon, j'inscris Anaïs.
Voilà, toutes les personnes motivées, talentueuses ou non, peuvent s'inscrire et sont acceptées en payant quand même 20 euros par personne. Alors oui, je sais, ça paraît quand même un petit peu flou, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais pour résumer, ça peut donner ça. Bon, ça, c'était à Londres en 2014.
Ah, génial.
C'est
incroyable.
Voici pour les meilleurs.
Les frissons.
Non, mais, franchement, parfois, écoutez, il y a mieux.
Ah oui, la maîtrise, la harmonie.
Là, il y a 1000 personnes là-dedans quand même. Hein.
Incroyable.
Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous avez jusqu'au 30 janvier pour le faire. Ça se passe à l'Opéra de Montpellier.
En attendant de voir ce qui se passera à l'Opéra de Montpellier en avril prochain, autre info musicale avec Anaïs. Anaïs, ton info bonus, c'est Renaud, le grand retour sur scène aujourd'hui de Renaud.
Oui, 5 ans qu'il n'avait pas mis les pieds sur scène. Il est attendu ce soir à la Scala Provence d'Avignon dans le cadre de sa nouvelle tournée intimiste avec quelques musiciens seulement. L'idée, c'était de retrouver son public, mais aussi de montrer à sa nouvelle amoureuse de quoi il est capable. 40 dates, plusieurs à Paris, et puis il terminera au Francopholie de La Rochelle les 14 et 15 juillet prochains.
Toujours vivant, rassurez-vous.
Renaud de retour sur scène donc ce soir. On voulait vous signaler l'info. Et puis à 5h56, on vous retrouve tout de suite pour le journal complet de 6h. La météo de Géraldine Domori. Ça se passe à la radio sur RMC et à la télé. Ça démarre tout de suite sur le canal 23 de la TNT sur RMC Story. Il est 6h. Bon réveil à tous sur RMC.
RMC Charles Matin.
C'est l'heure du journal Les Infos, présentées par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un an après les scandales de maltraitance dans les EHPAD, 53 plaintes enregistrées, mais dans les établissements, rien n'a bougé, témoigne une famille ce matin sur RMC. Inquiétude dans les stations de ski, les syndicats des remontées mécaniques rejoignent la bataille contre la réforme des retraites. Un préavis de grève illimité déposé en février. Et puis fin du rêve pour le club amateur Pays Cassel, balayé 7-0 par le PSG hier en Coupe de France. Un quintuplé record pour Kylian Mbappé.
Un an après les révélations de maltraitance dans les EHPAD, où en est-on ?
Il y a un an, une bombe, le livre enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet révélait des graves dysfonctionnements d'un géant du secteur. Orpea, 53 plaintes ont été enregistrées, une enquête préliminaire ouverte au parquet de Nanterre pour maltraitance institutionnelle. Et pourtant, il y a encore quelques jours, la défenseur des droits dénonçait le caractère systémique de ces maltraitances. Et sur le terrain, ça se vérifie. Estelle Henry et Lucille Pascanet pour RMC ont recueilli les témoignages de Michael. Ses deux parents, placés en maison de retraite sur la côte méditerranéenne, vivent un enfer.
Michael s'est occupé de ses parents malades pendant 5 ans avant de les placer dans un EHPAD Orpea en 2020. Mais depuis, leur état ne cesse de se détériorer. Perte de poids, manque d'hygiène. Selon lui, ses parents subissent des maltraitances.
Il y a une semaine ou deux, je rends visite à mes parents pour emmener ma mère chez le neurologue. Lorsque je viens la récupérer, je me rends compte qu'elle n'a pas les dents lavées. Et ça date de plusieurs jours. Elle est arrivée sans manteau en hiver. Je suis parti voir mon père qui était déjà à table à 17h30. J'ai eu l'heureuse découverte de voir mon père les mains pleines d'excréments à table. Je pense que ça ne devrait pas arriver. Et je suis révolté parce que sur une entité qui est censée prendre soin d'eux et justement être plus présente que nous, on ne pourrait l'être. Enfin, c'est inenvisageable. Cette situation n'est pas viable pour mes parents, pour nous qui nous faisons du souci, pour Orpea qui ne mérite pas que nos parents soient placés là-bas en fait.
Des faits signalés par Michael à l'EHPAD et même au siège d'Orpea. Reçue par la direction, elle lui a assuré que ces accusations sont prises très au sérieux. Mais selon lui, rien n'a changé depuis un an. Il cherche aujourd'hui à placer ses parents ailleurs et envisage de porter plainte.
La bataille contre la réforme des retraites, présentation hier du texte en Conseil des ministres. L'exécutif déterminé sur l'âge légal de départ à 64 ans fait face à une pression de plus en plus soutenue des syndicats. La preuve, de nouveaux secteurs entrent dans la danse. Ce sont les deux principaux syndicats des remontées mécaniques, la CGT et FO, qui ont déposé un préavis de grève illimité pour le mois de février, au moment des vacances. Inquiétude forcément dans les stations de ski, Mathieu Limongi.
Les syndicats entendent bien profiter de la journée nationale de mobilisation du 31 janvier. Eux aussi s'opposent à la réforme des retraites, mais ils veulent surtout un statut spécial pour les saisonniers. Éric Becker est leur représentant chez Force Ouvrière.
Il y a un refus jusqu'alors catégorique de créer quelque chose de spécifique saisonnier. On dénigre des gens qui ne demandent qu'à travailler. Et quand on arrive au bord de la falaise, comme on n'a pas envie de tomber, on prend un parachute et le parachute, c'est la grève.
Les syndicats demandent à être reçus au ministère du Travail, mais en attendant, du côté des stations, on accueille cet appel à la grève avec la grimace.
Après 2 ans quasiment de crise Covid, après l'énergie qui nous pose un problème, s'ils veulent en rajouter une couche, ils vont en rajouter une couche, mais il y a un moment, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied.
Pascal de Tiersan dirige le domaine des Trois-Vallées. Il gère entre autres des stations très prisées comme Courchevel ou Val Thorens qui pourraient être très touchées par la grève.
C'est pas très responsable. Il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent de côté pendant une bonne partie de l'année pour avoir une semaine de vacances au ski. Démolir cette semaine de vacances, c'est pas sympa.
Notre raison d'être, c'est de faire vivre les territoires, ajoute l'exploitant, car son autre crainte, c'est de voir les petites stations plus fragiles totalement mises à l'arrêt.
Une réforme des retraites qui provoque donc la colère et l'angoisse. Un chiffre RMC très significatif ce matin. Les caisses de retraite ont enregistré une augmentation de 20% des appels et mails dans les jours qui ont suivi la présentation de la réforme. Un afflux de demandes forcément compliqué à gérer, explique Florence Puget, secrétaire nationale de la CFDT Protection Sociale.
Il y a un afflux effectivement d'appels téléphoniques, de demandes de rendez-vous, personnes qui ne sont pas encore à la retraite, mais proches de la retraite, parce qu'ils veulent connaître les conséquences que cette réforme pourrait avoir, hein, puisque pour le moment, bon, c'est un projet de réforme. Du jour au lendemain, il faut que le personnel s'adapte. On leur demande de fait d'être attentif, d'essayer de rassurer, de décrypter ce projet hein, qui n'est encore qu'un projet. On leur met quand même beaucoup de choses sur les épaules, c'est compliqué.
Un dialogue, fragile, s'esquisse au milieu du chaos qui fait vaciller le Parti socialiste depuis l'élection du premier secrétaire la semaine dernière. Olivier Faure, qui revendique la victoire, s'est entretenu hier avec son rival Nicolas Mayer-Rossignol, qui continue de contester le résultat. Tous deux ont dit espérer trouver un accord d'ici au congrès de Marseille en fin de semaine. Et puis, les néonicotinoïdes, c'est bientôt fini. La France, sous pression de la justice européenne, renonce à autoriser ce pesticide pour les semences de betteraves, annonce du ministre de l'Agriculture hier, mettant fin aux dérogations de ces dernières années. Puis, une nouvelle fusillade aux États-Unis qui a fait 7 morts près de San Francisco dans 2 exploitations agricoles. Le suspect a été arrêté. Il est 6h05 sur RMC. Fin de l'épopée pour le petit poussé Pays de Cassel qui a résisté une demi-heure face au grand PSG hier en 16e de finale de la Coupe de France. Ensuite, avalanche de buts. Ils se sont fait balayer par les Parisiens, score final 7-0. Mais le plaisir de jouer contre des stars, Mbappé et Neymar, a tout emporté pour les joueurs du club amateur comme pour les supporters.
Il n'y a que dans le Nord qu'on peut voir ça, 38 000 personnes, tous derrière un club de Régional 1, il n'y a que ici qu'on peut voir ça.
Déçu, mais un beau match quand même, ils se sont bien défendus.
C'est un très bon souvenir, on a apprécié.
Pas bien, mais c'est pas égalité parce que Paris, ils sont quand même forts.
Et Kylian Mbappé a fait le show pour le plaisir de tout. Mbappé, machine à but avec un record hier. L'attaquant est devenu le premier joueur du PSG à inscrire un quintuplé en match officiel. Il est aussi devenu co-meilleur buteur de la compétition avec 29 buts comme Jean-Pierre Papin. Le PSG qui a donc décroché son billet pour un choc contre l'Olympique de Marseille au prochain tour en février.
Ouais, début février, calendrier chargé. Donc OM PSG en 8e de finale de la Coupe de France avant le PSG Bayern en Ligue des Champions. Bref, beaucoup de rendez-vous importants pour le PSG, beaucoup de rendez-vous foot tout simplement importants à suivre sur RMC. Vous ne manquez rien du sport et du foot, vous le savez, en écoutant RMC tous les jours. Et puis, vous ne manquerez pas non plus le prochain journal de Marguerite. Ce sera à 7h tout à l'heure, en direct sur RMC et RMC Story dans Apolline Matin. Apolline arrive dans quelques minutes à la radio et à la télé. On est déjà ensemble d'ailleurs sur le canal 23 de la TNT. Et d'ici 6h30, avant de retrouver Apolline, on va parler économie avec Emmanuel Lechypre, le Chypre du jour dans quelques minutes. Notre Story Sport aussi, ce sera avec Thibaut Texer dans quelques instants, mais tout de suite.
On va parler des prix des carburants au plus haut depuis 6 mois, à plus de 1,90€ le litre en moyenne. C'est pas fini. Il y a eu d'abord la fin de la ristourne du gouvernement début janvier, mais c'est le début de l'embargo européen sur les produits pétroliers russes à partir du 5 février, et qui pourrait donc faire bondir le gazole au-delà des 2€ le litre.
Est-ce qu'il va falloir s'habituer à un litre au-dessus de 2€? On en parle avec Philippe Chalmin tout de suite sur RMC. Il est économiste, spécialiste des matières premières et de l'énergie. Il est notre invité sur RMC et RMC Story.
RMC, Charles Matin.
Alors que la première ministre Elisabeth Borne a présenté hier officiellement sa réforme des retraites en Conseil des ministres, on vous pose cette question ce matin au 32-16 et sur Direct Studio. Faut-il sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors? Ce n'est pas prévu dans la réforme. REM nous écrit: faire bosser les seniors mais ne pas forcer les entreprises à en recruter, c'est typique de ce gouvernement et c'est une raison de plus évidemment, nous dit-il, pour s'opposer à cette réforme. On vous a demandé aussi de témoigner, de nous raconter la réalité du marché de l'emploi pour les plus de 55 ans. Bruno l'a fait sur Direct Studio. J'ai 55 ans, donc je suis inemployable, nous dit-il. J'ai envoyé plein de CV, aucune réponse, obligé de me mettre à mon compte, mais il n'arrive pas toujours à se payer, nous écrit-il. En revanche, Christian, lui, est ancien conseiller clientèle dans la téléphonie pendant 19 ans, à 54 ans, écrit-il. J'ai fait le pareil fou de quitter ma société pour effectuer une formation d'assistant administratif. Et il a trouvé deux jobs de conseiller clientèle dans l'assurance et le domaine de la retraite. Preuve que pour certains, ça marche. Vous continuez à réagir.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h10. Bon réveil à tous sur RMC et RMC Story.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est vous, Philippe Chalmin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières et de l'énergie. Et on a besoin de vous ce matin pour décrypter ce qu'il faut bien appeler une nouvelle flambée des prix à la pompe.
Oui, selon les chiffres publiés hier par le ministère de la Transition énergétique, le gazole se vend au prix moyen de 1,91€ le litre, 1,90€ pour le sans-plomb 95. Philippe Chalmin, on va tout droit vers un litre à 2€, c'est ça?
Non, pas forcément. Pour le diesel, ça devient quand même assez probable. Pour l'essence, non. Il faut toujours vous rappeler que que quand vous achetez du carburant, vous achetez quoi ? Vous achetez du pétrole. Alors comme ce pétrole est coté en dollars, il faut tenir compte évidemment de l'évolution du dollar et de l'euro. Vous achetez aussi des taxes. Bon, maintenant celles-ci sont stables et nous avons eu notre coût d'augmentation, enfin de retour à la normale au début de l'année. Et puis vous avez aussi des frais de des marges de raffinage et des frais de logistique. L'élément le plus important traditionnellement, c'est le pétrole. Le pétrole, il était quand même redescendu. On était passé en dessous de $80 le baril. Là, actuellement, avec les perspectives éventuelles de reprise chinoise, de remontée de la demande mondiale, on est un petit peu remonté. On était vendredi à $86 le baril. Et donc, c'est l'élément principal qui explique la hausse des prix.
Il y a une autre perspective aussi, Philippe Chalmin, sur les marchés, c'est la perspective. Il y a une date en fait, le dimanche 5 février.
Absolument.
C'est officiellement la date de. Je vais expliquer de ce qu'on appelle un embargo en fait. À partir du 5 février, il sera officiellement interdit aux pays de l'Union européenne d'importer depuis la Russie des produits raffinés du pétrole. Ça concerne surtout le diesel en fait. Cet embargo va avoir des conséquences sur le prix du diesel parce que Philippe Chalmin, concrètement, nous sommes aujourd'hui toujours très dépendants du diesel et du pétrole venus de Russie.
Tout à fait. Nous avons déjà un embargo sur le pétrole brut. Ça, il date du 5 décembre. Mais celui-là n'a pas énormément joué. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, nous avons une énorme dépendance à l'extérieur de l'Union européenne pour les produits raffinés. Nous avons fermé dans les années 2010, le raffinage du pétrole n'était pas une activité très rentable, environnementalement on n'aimait pas beaucoup cela, et donc on a fermé les raffineries, on a pris l'habitude d'importer des produits raffinés, et notamment du diesel, parce que dans le mix, c'est le diesel qui nous manquait le plus. Et donc, on a importé du diesel d'Ukraine et surtout de Russie. Et nous importions quand même des tonnages de diesel extrêmement importants, pas loin, enfin 750 à 1 million de barils par jour, ce qui est tout à fait considérable. Ces flux vont s'interrompre à compter du 5 février. Alors, on peut imaginer que ça prendra un peu plus de temps, les transactions en cours se finiront. Mais courant février, il n'y aura plus de diesel russe. Donc il va falloir aller acheter du diesel ailleurs, et bien entendu, ça risque de coûter plus cher. Et donc le différentiel entre essence, la vraie probabilité, la vraie prévision qu'on peut faire actuellement, c'est pas tant l'évolution du prix du pétrole sur lequel, bon, moi je suis plutôt baissier, mais je peux me tromper, mais ce dont nous sommes tous à peu près certains, c'est que le différentiel entre l'essence et le diesel, lui, va augmenter. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le sans-plomb 95, il est à 1,87. Le diesel, il est à 1,91. Ça, c'est les prix moyens de la semaine dernière. Donc, c'est pas un différentiel énorme. C'est 4 centimes d'écart. Alors, je vous rappelle qu'autrefois, il y a quelques années, pas si lointaines que ça, le diesel, ça valait moins cher que l'essence. Quand nous achetions des voitures à moteur diesel, c'était la motivation principale, c'était de dire « ça va coûter moins cher ». Ben, aujourd'hui, c'est 4 centimes de plus. Et il y a de fortes chances que dans le courant de février-mars, cet écart monte quelque chose peut-être à 10 centimes, parce qu'il va falloir aller chercher plus loin ce diesel. Ça va représenter des coûts d'acheminement plus importants. Alors, l'amusant dans l'histoire, c'est que le diesel qu'on va importer, il va venir de pays comme la Chine, comme l'Inde, où c'est du diesel qui est du diesel raffiné, à partir d'importations de pétrole russe.
Oui. Donc, vous voyez, il y a un peu d'hypocrisie derrière tout ça, vous faites bien de le pointer. Philippe Chalmin, mais donc ce qu'on comprend, c'est que oui, on va avoir, vous nous dites, un écart de plus de 10 centimes. Le diesel, c'est un changement presque de paradigme sur ce marché avec un diesel qui va être plus cher que le sans-plomb. Un diesel à 2 euros, disons-le clairement, à partir du mois de février, ça devrait s'installer sur plusieurs mois. En réponse à cette augmentation des prix des carburants, vous l'avez dit, on est revenu à la normale au niveau des taxes, c'était la fin de la ristourne depuis le 1er janvier, mais le gouvernement a mis en place un chèque carburant, 100 euros pour les travailleurs modestes. Les premiers versements doivent d'ailleurs avoir lieu dans quelques jours pour ceux qui ont rempli la demande en ligne sur le site des impôts. Est-ce que c'est la bonne solution pour l'économiste que vous êtes? Est-ce que ce chèque, là, versé en une fois pour toute l'année, c'est suffisant pour absorber la hausse des prix des carburants?
Dire que c'est suffisant, je n'en suis pas sûr. Je dirais que c'est quand même plus juste et probablement plus efficace que la mesure de baisse générale de la fiscalité des carburants qui a touché tout le monde et en caricaturant ça touchait autant la Twinko du travailleur qui écoute RMC le matin en s'apprêtant à partir à son boulot que celui du type qui part en vacances avec sa Porsche. Bon, là je caricature avec C, mais j'ai toujours été à titre personnel très opposé à ces remises globales sur les carburants qui coûtaient en plus très cher, comme dirait notre président, ça coûtait un bras. Je rappelle simplement qu'une remise de 10 centimes à l'année, ça représentait 5 milliards d'euros. Et donc, vous savez, c'est un peu quand vous arrosez votre jardin, vous avez deux techniques. Soit vous faites ça avec un jet d'eau et il y a beaucoup d'eau qui tombe dans les allées, etc., mais vous en fichez, soit vous mettez du goutte à goutte. J'ai toujours été partisan du goutte à goutte, mais c'est beaucoup plus compliqué. L'idée pour moi, c'était de mettre en place, comme on a des chèques déjeuner, des chèques repas, des chèques carburants qui auraient été distribués éventuellement par les comités d'entreprise et qui visaient véritablement ceux qui en avaient besoin.
Ouais, c'est toujours le risque. Quand on fait du goutte à goutte, c'est toujours le risque. Voilà, c'est d'oublier certains ou de ne pas en mettre assez. Mais en tout cas, voilà, vous soutenez cette idée de ne plus arroser tout le monde avec des baisses de taxes. C'est votre position, Philippe Chalmin, mais des aides plus ciblées. Et puis merci beaucoup surtout de nous avoir, d'avoir commencé à nous alerter sur cette perspective du mois de février, cet embargo sur le diesel venu de Russie qui va mécaniquement faire monter les prix à la pompe, et vous nous l'annoncez, Philippe Chalmin, le diesel qui va être nettement plus cher que le sans-plomb à la pompe, l'écart qui va se creuser, c'est ce que vous nous annoncez. Merci beaucoup, Philippe Chalmin, économiste, un spécialiste des matières premières et de l'énergie, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour décrypter cette nouvelle flambée des prix à la pompe en direct ce matin sur RMC et sur RMC Story. Philippe Chalmin, nul doute qu'on va continuer à en parler et à suivre de très près cette évolution des prix à la pompe et donc par conséquent de votre pouvoir d'achat. On va suivre ça de très près sur RMC. Ce qu'on suit aussi tous les matins, c'est l'économie avec notre monsieur économique et fidèle au poste tous les jours et qui vient de s'installer. Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
On va parler d'amour dans un instant.
Alors oui, d'amour, de mariage surtout.
Alors,
et de combien ça coûte?
C'est pas le principe?
Ouais, c'est pas la partie qu'on va le plus développer ce matin.
Ah, d'accord.
Le lien n'a pas l'air évident.
Romantisme.
Voilà.
Par contre, je vous dis juste un truc. Vous allez, le voyage de noces, ça va être pharaonique.
Et ben voilà, de belles perspectives. Et un autre voyage, cette fois dans le Nord, avec Thibaut Texer dans un instant pour la Story Sport. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'amour du foot ce matin, la fin d'un rêve pour le pays de Cassel battu hier par le PSG.
Vous l'entendez, beaucoup d'amour, pardon, avec Thibaut et Manu tout de suite sur RMC. Et de l'humour aussi évidemment. Bon réveil à tous.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h21, bon réveil à tous.
Le Chypre du jour.
Avec Emmanuel Le Chypre, on parle d'amour et de gros sous, évidemment. Emmanuel, 9 873 €, c'est notre Chypre du jour.
Oui, après deux années marquées par la pandémie, il y avait eu une importante reprise déjà du nombre de mariages en 2022. 244 000 Français se sont dit oui l'an passé et 2023 sera l'année de tous les records. Et pourtant, ils sont inquiets, nos jeunes mariés. Presque 7 sur 10, nous dit une enquête que vient de publier Cofidis, 7 sur 10. Craignent que l'inflation ait des conséquences sur la préparation de leur mariage. Et donc, pour y faire face, les trois quarts ont l'intention de limiter les dépenses en réalisant des arbitrages, par exemple sur la facture du lieu de réception, sur les cadeaux aux invités et la décoration. Au final, donc, ils consacreront à leur mariage 9 800.
Sinon, on réduit la liste des invités.
Aussi. C'est possible. Et puis, moi, j'ai jamais eu. Ouais, je me rappelle pas avoir reçu des cadeaux au mariage, mais bref.
Oui.
9 873 €, c'est quand même 1 200 € de moins que ceux qui se sont mariés en 2022.
Alors, on fait des économies le jour J.
Ouais.
En revanche, la nuit de noces, on se lâche.
Ouh là là. Alors là, c'est assez spectaculaire. C'est vrai que c'est.
Ah oui, sur le voyage.
Ah oui, oui, oui. Alors, est-ce que parce que les années précédentes, on était contraints dans les voyages, etc. Là, cette année, clairement, les mariés, ils préfèrent un voyage de noces inoubliable à un jour J inoubliable. En gros, le mousseux, les cacahuètes et la salle des fêtes, c'est pour le mariage. Le champagne, les petits four et les palaces, c'est pour le voyage de noces. Tenez-vous bien, 6 200 €. 6 200 €.
Ah oui, beau voyage là.
De budget prévu pour le voyage de noces, c'est quand même 2 500 € de plus que l'an dernier.
Incroyable.
Vous voyez,
le détail.
Ça
voilà.
Presque envie de se marier.
Voilà.
Bah, on va laisser Emmanuel et Anaïs en parler. Et moi, je vais me tourner vers Thibaut pour beaucoup d'amour aussi. Oui, on part dans le Nord tout de suite.
La story sport.
Retour avec toi Thibaut ce matin sur la défaite 7-0 du Pays de Cassel hier soir face au PSG en Coupe de France.
Grosse ambiance hier soir au Stade Bollard pour soutenir les amateurs de 6e division face à l'ogre parisien. Et il a fallu chauffer la voie, ça a commencé dans le bus, une heure séparée les 6 communes du Pays de Cassel à Lens.
Vous êtes chaud. Cassel, allez, allez.
6500 habitants, 35 000 personnes dans le stade chauffé à blanc. C'est la magie de la Coupe de France. Après une demi-heure de jeu, le PSG déroule 4-0 à la mi-temps. Samuel Gotthal, coach nordiste, prend la parole.
Je sais que ça va très vite, je sais que c'est athlétique, je sais que c'est compliqué, mais il faut qu'on soit rigoureux, là, d'accord ? Parce que le plus dur, il reste à venir. Vous ne croyez pas que le plus dur est fait, hein ?
Ah, et le plus dur est arrivé. 7-0, le score final, ça fait mal. Grâce notamment au premier quintuplé de la carrière de Kylian Mbappé.
Et l'attaquant parisien, très difficile à arrêter hier soir. Et ce n'est pas le défenseur cassellois, Corentin Rapaille, qui nous dira le contraire.
Ça va vite. Hein. Ça va vite. Franchement, je vous invite à venir sur le terrain avec nous et voir ce que ça donne. Mais franchement, ça va très, 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 très vite.
Corentin Rapaille battu, mais pas forcément déçu.
Franchement, je pense même pas au résultat. Franchement, à l'aventure qu'on a vécue de ce soir déjà sur cette Coupe de France. Et de finir par un match contre le Paris Saint-Germain, franchement, c'était Graal. C'était ce qu'on pouvait avoir de mieux.
Bah oui, c'est la classe quand même.
Bah oui, c'est plutôt pas mal. Et puis il y en a un autre qui n'a pas perdu sa soirée, c'est Kevin Rudan.
On attendait un peu de récupérer les maillots. D'habitude, on va les acheter en magasin. Donc là, ça fait plaisir d'avoir un maillot.
Un petit maillot pour le souvenir, 110 euros d'économiser. Et le respect de leur adversaire du soir, Samuel Gotthal, entraîneur flamand.
Monsieur Galtier est venu me saluer à la fin de match. Forcément, je regardais le tableau d'affichage et il me dit « Ouais, mais ça veut dire qu'on a cherché à vous respecter le plus possible. » C'est forcément valorisant pour nous et c'était magnifique à vivre.
Magnifique à vivre et un souvenir et un sentiment de fierté et un souvenir inoubliable pour les supporters, forcément.
Il n'y a que dans le Nord qu'on peut voir ça. 38 000 personnes, tous derrière un club de Régional 1. Il n'y a que ici qu'on peut voir ça.
Déçu, mais un beau match quand même. Ils se sont bien défendus.
C'est un très bon souvenir, on a apprécié.
Ouais, il faut quand même fort parler, mais les Cassellois n'auront à rougir de rien. Un souvenir inoubliable comme une parenthèse à part, loin des paillettes du PSG. Retour sur terre ce matin pour ces gars mis en lumière le temps d'une soirée. Le cœur léger, mais certainement un peu fêlé.
Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve.
C'est bien. Ah, c'est Céline.
C'est Céline Dion, de bon matin, avec Thibaut Texer.
Le pire truc pour se remonter le moral quand on perd à Bollard, c'est d'aller faire un tour à la friterie à côté. J'y arrive.
Ah, ben voilà.
Quand j'ai dit ça, je dis rien.
Casse totalement.
Cri du cœur d'Emmanuel.
Elle est énorme.
C'est une belle de France. Sur RMC, on passe de Céline à Pauline, tout de suite. Bonjour à Pauline de Malherbe.
Salut Charles, bonjour tout le monde. J'adore. Bon, ça va, ça fait du bien quand même, un petit set, Charles.
7-0.
Je sens ce matin, vous êtes.
J'ai passé la matinée hier à Rangers. Mon frère à dire ouais vive l'ambiance ce soir, voilà, super la belle histoire, et voilà, 7-0, ça fait plaisir.
Allez, je prends le relais dans un instant avec ce débat que vous avez déjà lancé ce matin, Charles. Est-ce qu'un index des seniors, ça va assez loin? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à contraindre les entreprises pour les obliger à garder les seniors au travail? Et d'ailleurs, j'ai découvert en préparant ce chiffre qui m'a paru saisissant ce matin, il n'y a qu'un seul Français sur trois qui travaille entre 60 et 64 ans. Un sur trois. Ça veut dire que tous les autres sont soit en pré-retraite, soit sortis de l'emploi, soit au chômage. Alors venez justement témoigner, vous avez peut-être plus de 60 ans. Est-ce que vous réussissez à trouver votre place au travail? Est-ce que vous avez trouvé votre moyen de faire? Vous avez déjà eu des témoignages dans ce sens, Charles.
Oui, et des témoignages positifs aussi des Français qui, après 55 ans, ont changé de boulot, changé de carrière. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez fait au 32-16.
Et je vous attends au 32-16 pour vos témoignages, vos débats. À tout de suite.